France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Henri nous appelle de Paris, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai une question pour François Bayrou, dont j'apprécie les livres et les idées politiques, mais j'aimerais savoir si, qu'il me réponde en vérité, il n'y a pas un risque avec Macron de retrouver une instabilité parlementaire de type 3e et 4e République.
Merci Henri. François Bayrou.
Alors c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de risque de cet ordre parce que la Ve République a organisé une fois pour toutes les pare-feux contre ce risque. Les pare-feux sont, je rappelle qu'il y en a trois, le 49-3, c'est-à-dire l'obligation, ou en tout cas la question de confiance posée à l'Assemblée, si vous voulez voter non à un texte essentiel, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Deuxième pare-feu, le référendum. S'il y a un problème d'institution, on en appelle au pays. Troisième pare-feu, la dissolution de l'Assemblée nationale.
Oui, enfin le premier pare-feu qui nous distingue de la 3e et de la 4e République, c'est le mode de scrutin contre lequel vous êtes souvent élevé, François Bayrou, justement, ce scrutin majoritaire.
Et j'espère bien qu'on va sortir de ce blocage-là. N'est-ce pas que nous sommes sur une radio de service public, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, normalement, qu'on considère que toutes les sensibilités dans une société démocratique ont leur place. Et cette règle de respect des sensibilités, est-ce que vous voulez la confronter à la société politique dans laquelle nous sommes? La société politique dans laquelle nous sommes, c'est que les deux partis qui ont la totalité des sièges, parce que les quelques sièges qu'ils donnent à des satellites ou à des roues de secours, c'est eux qui les donnent. Ils ont la totalité des sièges. Et ils représentent à eux deux moins de 30% des voix. 18% mesuré pour François Fillon, autour de 10% pour Hamon.
Oui, davantage au moment de l'élection de l'Assemblée. Enfin, non, aujourd'hui, c'est
non,
ça, oui.
Non, c'est ça la réalité de la société française.
La réalité d'aujourd'hui.
Ils ont tous les sièges avec moins de 30% des voix, et les 70 autres % des Français, qui représentent des dizaines de millions de citoyens, eux n'ont pas de représentation. Alors, le système politique, ou en tout cas l'habitude politique, fait qu'on s'en accommode, et moi, je ne m'en accommode pas, et les millions de Français qui ne sont pas représentés, soit qu'ils soient à l'extrême droite, soit qu'ils soient à l'extrême gauche, soit qu'ils soient des écologistes, soit qu'ils soient du centre indépendant, ceux-là se détournent de nos institutions. Ceux-là, simplement, ils n'y participent plus. Et nous sommes le seul pays en Europe, le seul pays, Bernard Guetta peut en attester, le seul pays dans l'Union européenne d'aujourd'hui qui ait ces institutions. Tous les autres considèrent qu'on doit représenter, dès l'instant qu'il y a un nombre de citoyens, mettons 5%, c'est 1 million de voix. Hein. 1 million de voix, on doit avoir un siège, on doit avoir des sièges pour parler en votre nom dans les institutions et à l'Assemblée nationale. Principe que je défends, principe qui n'empêche pas l'Allemagne d'être pas mal gouvernée, monsieur Cohen, je sais pas si c'est la loi électorale allemande, et on voudrait nous présenter ça comme un risque. Ce qu'on a vécu avec les frondeurs, c'est l'instabilité sous la Ve République. Ils ont été incapables, le gouvernement, de porter au bout les projets qui étaient les leurs. Et donc, oui, je défends un principe de pratique nouvelle de nos institutions qui, grâce à la constitution de la Ve République, ne peut pas déboucher sur l'instabilité.
Philippe nous appelle de Bordeaux. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Bayrou. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Jean Lassalle, votre ancien ami et ex-numéro 2 du MoDem, qui est arrivé 5e
jamais été numéro
en termes en nombre de parrainages? Est-ce que vous envisagez de le soutenir s'il passe le premier tour?
Vous avez entendu les rires autour de la table, et les rires suffisent à répondre à cette question. Je ne veux pas participer à une discussion qui serait forcément désagréable autour de cette aventure.
Pourquoi désagréable ?
pour une raison très précise, c'est que le débat présidentiel est un débat lourd et sérieux. Il engage l'avenir du pays, et pour moi en tout cas, je ne participe pas.
Vous voulez dire que Jean Lassalle, en l'occurrence, à vos yeux, n'a pas sa place dans ce...
Non, je ne veux pas en parler.
C'est un personnage, quand même.
Oui, mais qui a des côtés, ça n'est pas une affaire de personnage. N'est-ce pas? Je suis un homme des Pyrénées. Je suis un homme des milieux qui ne sont pas représentés. Et ils méritent d'être représentés en étant pris au sérieux. Voilà.
Très bien. Elisabeth nous appelle de Lyon. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je pense que ma question va faire moins rire. Monsieur Bayrou, il y a un an, vous avez contribué à l'élection de Monsieur Vauquier à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le MoDem que vous présidez figure dans sa majorité à Monsieur Vauquier. Monsieur Vauquier n'est-il pas le symbole de cette droite de 1934 que dénonce votre poulain Monsieur Macron? Je m'explique, rejet des réfugiés, dénonciation de l'immigration, réduction des moyens aux associations, réduction des moyens mis à la culture, mise à mal de l'environnement. Monsieur Bayrou, j'ai du mal à vous croire dans vos convictions avec Monsieur Macron. Merci de me répondre.
Merci Elisabeth.
Il se trouve que mes amis de la région ont fait le choix de l'alliance qui a gagner la région autour de Monsieur Vauquier, c'était, comme vous le savez, pas forcément mon choix. Et heureusement, chaque fois que nécessaire, ils ont voté contre les projets qui n'allaient pas dans le sens. Mais je pense que l'échec de la gauche à la tête de la région Rhône-Alpes porte une responsabilité assez grande dans la victoire de Vauquier.
Donc vous ne vous reconnaissez pas dans... la personnalité et les prises de position de Laurent Wauquiez.
Ah, c'est pas du tout ma sensibilité. Mais vous voyez bien, Laurent Wauquiez est sur une ligne très à droite, et moi je suis sur une ligne de centre indépendant. Et l'ambiguïté a été d'essayer de faire croire que ces deux lignes étaient les mêmes lignes. Raison pour laquelle je me suis toute ma vie opposé au soi-disant parti unique de la droite et du centre, parce que pour moi la droite et le centre c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que sur des sujets particuliers on ne peut pas travailler ensemble, mais ça veut dire à coup sûr qu'il faut que chacun assume son identité. C'est parce qu'il y a eu cette confusion que la droite n'a pas pu être la droite et que le Front National s'est largement installé sur ce terrain, que le centre n'avait pas pu être le centre et que le Parti Socialiste s'était largement installé sur ce terrain dans des régions entières. Et ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve l'authenticité des sensibilités politiques françaises, des inspirations politiques françaises. Il est légitime que chacun soit ce qu'il est et qu'on n'essaie pas d'effacer, comme avec une gomme, des sensibilités qui font le fond de la démocratie française.
Emmanuel Macron, il l'incarne, il peut faire émerger ce centre libre et indépendant dont vous rêvez, dont vous espérez l'émergence depuis des années.
C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et c'est parce qu'il y a une cohérence de fond sur les objectifs à atteindre, j'en ai cité quelques-uns, une démocratie, une vie démocratique nouvelle, pluraliste, un choix européen qui soit un choix européen assumé, avec la volonté de faire que l'Europe soit accessible aux citoyens et pas un univers fermé, une volonté d'initiative en économie et de soutien de l'entreprise, et enfin un projet social de solidarité pour le pays. Tout ça fait un bloc cohérent. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que dans les projets, les déclarations et les équipes qui se regroupent de plus en plus autour de Emmanuel Macron, il y a cette cohérence-là.
Michel, de Paris, vous ramène à des déclarations passées. Vous avez écrit Michel, vous avez dit que Macron était le candidat de la finance. Peut-il résister au capitalisme?
Alors, la première exigence qui a fait notre alliance, c'est qu'on inscrive dans une loi sévère la lutte contre les conflits d'intérêts. La lutte contre la tentative de prise de contrôle par des puissances économiques ou financières de l'activité politique. Qu'il y ait des manœuvres qui fassent que des responsables publics de premier rang soient en réalité les obligés de puissance économique et financière. Alors ça vous rappellera l'actualité si vous ouvrez les yeux sur les semaines récentes. Eh bien cela, pour moi, est inacceptable dans son principe. Et la première chose dont nous avons discuté avec Emmanuel Macron, c'est une loi de moralisation de la vie publique qui écarte définitivement tout risque des conflits d'intérêts.
Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis entre cette déclaration, ce n'était pas la seule d'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations de la sorte, on avait fait ici d'ailleurs, et le moment où vous avez rejoint Emmanuel Macron, c'est pas simplement parce qu'il a accepté une de ses conditions.
Si, c'est parce que j'ai vérifié auprès de lui qu'il était favorable à une séparation nette entre l'argent et le pouvoir.
Vous aviez fait ces déclarations avant de vérifier, alors. C'est juste comme ça, c'est une impression parce qu'il était banquier chez Rothschild.
Ben, vous voyez bien que je suis pas tout à fait le seul à avoir évoqué ce sujet. Il y a eu dans les premiers temps beaucoup d'expressions autour de ce sujet, et c'est quand j'ai vérifié avec lui qu'il était favorable à la création de cette cloison de verre, de cette paroi qui mettait à l'écart toute influence sur le choix d'intérêt général, toute influence d'intérêt particulier sur le choix de l'intérêt général, que, alors, oui, en effet, il m'a paru que cette alliance était possible.
Et je voudrais savoir, et ça, c'est pas sans lien avec la question précédente, à quel moment et comment ça s'est passé, ce moment où vous êtes aperçu que finalement, l'espace politique que vous incarnez depuis si longtemps et que vous essayez de faire vivre, de prospérer et gagner, c'était plus vous qui pouviez le faire. Et comment vous avez passé ce flambeau? Est-ce qu'il y a un...
Je sais pas bien comment vous représentez la vie politique. Mais la vie politique n'est pas une affaire uniquement individuelle.
Et c'est pour ça que je vous pose la question.
Et donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait des équipes et des rassemblements. En 2007, plusieurs autour de la table le savent, ce rassemblement a failli avoir lieu. Avec des responsables très importants de la sensibilité social-démocrate, on va dire. Michel Rocard, par exemple, pour il n'y a pas de secret, c'est quelqu'un pour qui j'avais de l'estime, et je crois qu'on avait de bonnes relations réciproques. Je crois que Michel Rocard s'est posé cette question. Et puis, il n'a pas fait le saut. S'il avait fait le saut, on aurait gagné l'élection présidentielle de 2007. Et je n'ai pas voulu, moi... porter cette responsabilité d'une situation dans laquelle...
Vous faites le Michel Rocard qui fait le saut.
Non, je constitue avec Emmanuel Macron une équipe qui va être l'équipe de renouvellement de la vie politique et démocratique en France. Nous sommes confrontés, pas seulement vous observateurs ou nous élus, nous sommes confrontés comme citoyens à l'impuissance de la politique française depuis combien ? Depuis 15 ans, 20 ans. On fait des annonces, on prétend qu'on va arriver et puis rien ne se passe. Et pour sortir de cette impuissance-là, de cette impasse-là, eh bien il fallait en effet qu'il y ait des choix décisifs. Résolu, j'ai écrit un livre qui s'appelle Résolution française, des choix résolus qui disent écoutez, maintenant on va mettre ensemble toutes les forces qui veulent ce changement, cohérentes, qui sont compatibles entre elles. C'est ce que nous sommes en train de faire.